pousser. Disons un grand merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore au bénéfice. Nous pouvons le louer, le glorifier, le chanter pour tout ce qu'il est pour nous. En tant que parent, j'ai un petit penchant pour ces deux jeunes filles qui chantent. Et pendant toute cette, ça c'est mon observation personnelle, hein. Pendant toutes ces vacances, nous avons l'église. Je dis nous avons notre sœur Patricia qui assume ses services. Nos deux jeunes filles sont à ses côtés. Moi, personnellement, en tant que parent, là où je suis, vraiment, j'ai prié pour elles. Parce que je sais qu'elles sont des cibles pour l'ennemi. Et je vous encourage à les soutenir dans la prière. Parce que aujourd'hui, elles chantent pour la gloire de Dieu. Nous aimerions les voir continuer à chanter pour la gloire de Dieu. Moi, je parle avec le cœur de papa. Parce que je suis parent, j'aimerais bien voir mes filles, surtout avant ma mort. J'aimerais bien les voir. C'est un souci pour moi. Voilà. Vous me comprenez, vous qui êtes parents, je pense qu'on se comprend. On se comprend. J'ai pas de discours à vous faire. Par exemple, nous voyons que il y a des discours d'éloquence. Et quand je suis derrière un petit écran, je vois des chants. Tout ce qui est des discours d'éloquence, comment on doit se tenir, comment on doit se présenter, quelles prestations doit-on avoir. Moi, j'ai pas de prestations, j'ai pas de prestance, j'ai rien à vous présenter. Sinon, comme notre frère Bonhomme a l'habitude de dire, nous allons passer quelques minutes autour de la personne de Jésus-Christ. J'ai pas de discours, j'ai pas de prestations, j'ai pas de prestance, non. Et acceptez-moi avec ma faiblesse, telle que je suis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de la part de Dieu. Si c'est deux mots, je le dirai. Si c'est trois mots, je le dirai. Mais j'ai pas de prestance. Voilà. De quoi vais-je vous parler ce matin? Nous allons parler... Oh, pardon, excusez-moi. Je vais vous parler d'un point que vous et moi, nous connaissons un peu, c'est de l'alliance. Nous savons que dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Pour ne pas dire beaucoup, je vais peut-être citer, il y a que huit grandes alliances. Nous connaissons qui existaient dans la Bible. Il y en a plein, hein, mais il y a plein, mais je parle que des huit. Je vais pas les citer toutes. Mais nous savons qu'il y en a pas mal. Nous savons qu'il y a l'alliance avec Noé, avec Adam, dans l'ordre chronologique, avec Adam, Noé, Moïse, Abraham, David, Israël. Bon, voilà, je les cite comme ça. Il y a plein d'alliances dans la Bible. Je veux dire ceci. Je bénis les seigneurs. Vous savez, je considère l'Église comme une école. Dans un établissement, ça dépend de la classe dans laquelle on est, il y a un programme. Il y a un programme et le prof, il doit suivre son programme qui lui a été soumis pour enseigner sa classe. Mais nous, en fait, je dirais que l'Église, nous sommes dans une grande classe. Il y a des personnes de tous les âges, de tous niveaux. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des vieillards. Voilà, nous sommes tous de la même classe. Mais le seul directeur qui va nous donner note, c'est Jésus-Christ. Et quelle note? Simplement, veux-tu me suivre? Veux-tu saisir la main que je te tente? Voilà, c'est que c'est Jésus, le directeur, c'est la vie éternelle. Si tu veux, oui, tu veux pas, malheureusement, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ est le grand professeur par excellence. Nous sommes dans sa classe. Nous, Jésus est le maître, est le professeur par excellence. Nous sommes dans son amphi, nous sommes dans son école, nous sommes dans sa classe. C'est Jésus qui enseigne et c'est Jésus qui donne note. Donc, note en question, c'est la vie éternelle. J'étais en train de réfléchir, je me dis, mais tous les dimanches, nous écoutons des différents prédicateurs. Mais j'ai dit, tout ça, c'est quelque chose de merveilleux, ça. Parce que nous entendons des sujets différents. Par exemple, dimanche dernier, frère Eric nous a parlé de... Merci, frère. Merci. De la guérison. Il nous a parlé, il nous a cité l'homme de la main sèche. Il a fait plein de citations. Précédemment, frère Raymond nous a parlé du bon, du l'Éternel est mon berger. Et si nous remontons, nous retournons un petit peu en arrière, nous avons des sujets, des sujets, des sujets, des sujets. En gros, tous ces sujets-là nous forment. Tous ces sujets-là nous préparent. Tous ces sujets-là nous instruisent. Bon, ça c'est moi, hein? Peut-être je dis faux, mais je trouve que nous sommes dans une grande classe. Nous avons Jésus-Christ comme le professeur par excellence, l'enseignant, le Saint-Esprit, bien évidemment, par excellence, qui nous enseigne par le biais de ses enfants. Est-ce que jusque-là ça va? Voilà, ce que je vous propose, nous allons voir aujourd'hui l'un des personnages dans la Bible, l'un des personnages de la Bible à qui Dieu a fait alliance. Et ce personnage, il s'agit parmi tous ces personnages, il s'agit la personne d'Abraham à qui Dieu avait fait, il a fait plusieurs alliances avec lui, hein, avec seulement la personne d'Abraham. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons plusieurs déjà Genèse chapitre 12, là où Dieu a appelé Abraham. Il a fait des promesses. En Genèse chapitre 15, encore à nouveau, là il l'a appelé, il lui a promis toujours le pays qu'il lui avait promis depuis Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 15, il réitère cette promesse, il va lui donner un pays, un territoire, mais déjà Dieu l'a annoncé, voilà, pendant tout ça, mais le peuple, tes descendants seront en captivité pendant 400 ans. Dieu lui a annoncé la couleur des choses. Et en Genèse chapitre 17, et là nous allons voir un peu, Genèse chapitre 17, versets 9 à 14, et nous voyons où là Dieu a conclu, a signé une alliance avec Abraham. Et cette alliance, il était question de la circoncision. Alors, de la circoncision, et nous allons faire la lecture. Genèse, chapitre 17, je vous lis le verset 9 au verset 14. Chapitre 17, verset 9, 14. Je peux faire la lecture, c'est bon? Ah bon, parfait. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité. Après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. » Verset 11. « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Alors, cette alliance, nous pouvons nous demander, je pense que nous sommes tous de grands enfants ici, c'est quoi une alliance? Une alliance, excusez-moi, j'ai mon petit truc là, il ne veut pas venir. Alors, Dieu, une alliance, il y a dans la Bible des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles. Mais je vais rester sur cette alliance avec Abraham. Dieu a conclu cette alliance avec Abraham. Comme je vous disais déjà, il y en a plusieurs. Mais nous avons deux choses. J'aime voir avec vous ce matin. C'est la circoncision où le sang de l'homme a été versé. Et nous allons voir. C'est comme si le Saint-Esprit nous a programmé, ma sœur Gertrude, dans sa prière, ma sœur à la direction du culte, tout se converge dans le sens de ce que je vais dire en Hébreux chapitre 9. Nous allons parler de la nouvelle alliance que Jésus lui-même a conclue avec nous aujourd'hui. Lorsque Dieu a appelé Abraham en signant, si j'ose dire, en faisant cette alliance avec Abraham, qu'est-ce qui est dit? C'est une circoncision. Oh, voilà, c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est une petite intervention chirurgicale dans le corps. Voilà, juste une petite intervention. Mais nous voyons ce signe qui va faire de ce peuple. Vous savez que avant Abraham, si nous faisons un petit tour pour bien comprendre les choses, Abraham, c'était son père, son grand-père, c'était des païens. Mais Dieu l'a appelé, Dieu a fait choix d'Abraham, et Dieu, c'est d'Abraham, Dieu a formé le peuple juif. Aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un qui dit il est juif, je ne vous dis pas ça d'aller faire un débat. Sauf si vous avez des épaules carrées, vous pouvez, si vous êtes capable d'affronter, allez-y. Mais quand quelqu'un qui vous parle, il vous dit qu'il est juif, par curiosité, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Demandez-lui, est-ce qu'il est issu d'Abraham? Parce que quelqu'un peut se dire qu'il est juif, mais il faut savoir, tu es juif, comment tu es juif? Est-ce que tu es dans la lignée d'Abraham? Ou du moins, tout simplement les 12 tribus? Est-ce que vous me suivez là? Quand je disais tout à l'heure, nous traitons des sujets, ça c'est pas un point qui peut vous aider ça? Oui, je crois. Parce que il y a des choses, peut-être intellectuellement, académiquement, vous êtes bien informé, mais il y a des petits trucs comme ça, peut-être qui vous échappent, que vous connaissez pas. Ne me dites pas, je suis en train de vous malmener. Hein. Donc, la circoncision, c'était un signe extérieur, et aujourd'hui, souvent, quand vous voyez nos frères juifs, vous voyez souvent, ils ont des franges, des trucs blancs là. Ça, c'est des franges qui dit leur appartenance. Vous me suivez? Et quand vous les voyez, ils ont pas mal de choses. C'est des signes qui disent leur appartenance, leur religion, qui ils sont. De cette époque-là, quand l'Éternel Dieu avait fait cette alliance à Abraham, c'est-à-dire que ceci, cette petite intervention chirurgicale définit, atteste qu'ils sont de la lignée d'Abraham. Et donc, c'était le sceau d'appartenance qui dit qui ils étaient, et c'était cette action-là qui prouvait de quelle lignée où ils descendaient. Mais, et pour nous aujourd'hui? Avant de voir ça, pour nous aujourd'hui, est-ce que nous, C'était simplement extérieur, je précise bien, c'était des signes physiques extérieurs, mais qui n'avaient rien à voir, tout ce qui est intérieur, le changement du cœur, de faire des opérations intérieurement, non. Et c'est un peu plus loin, en Ézéchiel 36, nous allons voir où Dieu va dire un peu plus loin, dans les derniers temps, ce qui allait se passer, Ézéchiel 36, versets 26-27, il allait donner un esprit nouveau, il allait changer les cœurs, voilà. Ça, dans un premier temps, c'était un signe extérieur qui disait qui ils étaient. Mais au fil du temps, il y a cette opération qui est faite de l'intérieur lorsque Dieu envoie son esprit dans leur cœur. Alors, aujourd'hui, nous pouvons comprendre, avant d'arriver dans autre chose que j'aimerais voir avec vous, nous avons un texte dans la Bible. Très souvent, nous avons un frère qui va peut-être se reconnaître, ou bien l'Église, nous allons nous reconnaître là-dedans. Très souvent, qui cite ce texte, « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Je peux vous dire, c'est un texte fondamental dans la Bible. C'est un texte très fort dans la Bible. « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Écoutez-moi, l'Église. Je change de discours, de la circoncision. C'est que c'était un signe extérieur, distinctif, qui faisait connaître que les Juifs, leur appartenance, c'était le judaïsme. Mais dans le judaïsme, aussi avec la loi de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un avait commis un péché, un crime quelconque, cette personne avait besoin de présenter un sacrifice pour pouvoir être rétabli dans l'assemblée. Mais quand nous lisons, je vais juste essayer de survoler pour que je puisse rentrer le point important pour nous, la vie de l'Église. Nos jeunes ont chanté avant les grandes vacances. Je sais qui je suis, c'est ça? C'est ça? Ouais. J'aimerais que nous connaissions nous, que nous sachions nous qui nous sommes. D'où Dieu nous a pris? D'où Jésus-Christ nous a pris, quelle intervention Jésus-Christ a faite pour que nous soyons, nous, aujourd'hui, ce que nous sommes. Je vous invite, juste une petite lecture survolée, Lévitique chapitre 4, simplement survoler ça pour voir, je disais le texte de sans effusion du sang, il n'y a point de pardon, Lévitique chapitre 4, il y a pas mal de versets, mais pour simplifier, Lévitique chapitre 4, je l'avais mise, non? Ah, je l'avais pas mis. Bon, mais le texte nous dit que, dans Lévitique chapitre 4, voilà, Lévitique chapitre 4, si nous lisons du verset 27 à 31, le texte nous dit que si quelqu'un du peuple a commis un péché involontaire en faisant contre l'un de ses commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et cependant se rendant coupable. Tu peux me l'afficher s'il te plaît, ma sœur? Lévitique 4. Oh, pardon, désolé. Bon, sinon, je fais comme ça, pour ne pas te pénaliser. Ça va aller? Ok. Allez, on va mettre verset 27, 28, et puis ça va être bon. Je l'affiche, je demande à ma soeur de l'afficher, c'est pour pour chacun d'entre nous. Même si je sais que, en le lisant, mais si vous le verrez aussi, je pense que ça va nous être utile. Ok, merci. Si quelqu'un du peuple là, qui a commis involontairement en faisant contre l'un de ses commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, qu'est-ce qui doit se passer avec cette personne? Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, voilà, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut pour le péché qu'il a commis. Merci. Et si nous continuons le chapitre, il va nous dire que cette personne-là, avec cet animal, il doit poser sa main dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché que moi j'ai commis, et je me rends compte de ce péché, maintenant, je dois, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire en passant, Jésus-Christ est notre sacrificateur. Amen, vous m'entendez? Jésus-Christ est notre sacrificateur. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur, vous pouvez comprendre, hein, si vous êtes très calé bibliquement, si vous êtes très observateur, nous n'avons plus besoin. Jésus-Christ est notre sacrificateur par excellence. Alors, il a donné sa vie, lui, nous allons voir ça. Il a pris sur lui nos péchés. Je ne vais pas trop me dévancer. Or, cette personne qui a commis ce mal, ce forfait, ce péché, comme notre frère nous avait dit dimanche dernier, on ne veut pas dire c'est un péché, on va dire c'est un manquement. C'était ça, hein? C'est un manquement. Allez, comment dire? C'est une faute, mais pour ne pas dire le nom, mais c'est un péché. C'est un péché, disons-le, c'est un péché. Alors, cette personne devait poser sa main, ça veut dire que cette personne transmet le mal qu'il avait fait, le péché qu'il a commis, et c'est l'animal en question qui va porter ce péché. Et ça, cet animal, bien-aimé, écoutez, s'il vous plaît, le péché a une conséquence. Imaginez, moi je commets mon acte, et l'animal en question va porter, c'est lui qui va porter mon fardeau. Et l'animal va être égorgé. Et c'est après ce sacrifice, cette personne va pouvoir être rétablie dans l'Assemblée des Saints. Très important. D'où le texte, je conseille à l'Église, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a point de pardon. Vous savez, en français, quand on utilise les deux négations, les négations entre pas et point, il y a un qui est beaucoup plus fort. Là, quand on dit il n'y a point, c'est beaucoup plus fort que pas. C'est bien ça, hein, pour les académiciens. Il n'y a point de pardon. Or, tant que cet animal n'est pas égorgé, la personne reste fautive. Mais c'est avec ce sang qui est coulé, c'est ce sang coulé qui va, avec lequel le sacrificateur va se servir pour asperger dans les sanctuaires pour faire la purification. La Bible nous dit que tout cela, c'était pour expier, si je rentre à cheval dans mon texte, en Hébreu chapitre 9, je rentre là-dedans. Le texte nous dit que tout cela dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Expiation, c'était simplement le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des taureaux servait simplement à couvrir les péchés. Mais ce qui est extraordinaire, capital, aujourd'hui, c'est Jésus qui va faire son entrée. Et lorsque Abraham, et Dieu avait conclu cette alliance à Abraham, en Genèse 17, c'est que pour la circoncision, bien évidemment, il y a eu du sang qui a coulé. C'était une petite opération, mais c'était un petit truc personnel qui se faisait, voilà, voilà. Mais Jésus va être exposé. Exposé. Vous voyez le sens de ce morceau de bois. Il y a un sens vertical. Il y a un sens vertical. Dans ce sens, Jésus était debout comme ça. Ici présent, ça symbolise les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient toujours debout pour offrir des sacrifices. Et ce sens comme ça, c'est le sens horizontal. Il y a une relation entre terre et ciel, et ça, il y a une relation entre l'humanité. Or, lorsque la Bible nous dit, je vais peut-être vous étonner ce matin, et quand moi-même j'étais à la porte de Clignancourt, je pensais avec le texte, je pensais, parce que quand je dois parler comme ça, je suis pas bien, même si je suis là où je suis, c'est ça qui me trotte à l'esprit. J'étais à la porte de Clignancourt juste avant de monter sur le périph. J'ai un déclic qui me dit, mais Eben, écoutez, regardez ça, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 19, 20. Et quand j'étais juste en train de monter sur le périph, tout à coup, le texte me dit, avant la fondation du monde, Dieu a prévu Jésus-Christ pour être victime expiatoire. Ça vaut la peine de le lire. Vous n'êtes pas dire, comme j'ai l'habitude d'écouter un frère qui prêche au Canada, et très souvent quand il prêche, il dit pour ne pas dire que, bon, je vous dis son nom, il s'appelle Eden. C'est pas Eben, hein. Quand il prêche, il dit pour ne pas dire pasteur Eden a dit, je vous invite à faire la lecture de, je ne l'ai pas mis non plus, ce texte, 1 Pierre, chapitre 1er. Bon, ok, je vais le lire, je vais le lire. Pour ne pas dire que frère Eben a dit, et je vous invite à regarder ce que la parole de Dieu nous dit avant de lire Hébreu, avant de voir tout ce qui se passe en Hébreu chapitre 9, quelques versets. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Quelles sont ces choses périssables? Suivez avec moi, s'il vous plaît, le texte. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssable. Lesquelles? Quelles sont les choses périssables? Par de l'argent ou de l'or? Waouh! Tel que nous connaissons, l'or est précieux, alors que l'or est considéré comme quelque chose périssable. Mais que vous avez été racheté de la vaine manière des vivres que vous aviez hérité de vos pères. Mais écoutez ça, verset 19. Mais par quoi, s'il vous plaît? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et alors, je m'arrête là parce que si je lis pas les versets 20, c'est comme si je rien dit. Vous savez que l'animal en question qu'on devait être égorgé, cet animal devait être sans défaut. Il ne devait pas y avoir une patte cassée. Il ne devait pas y avoir un comportement de corporellement quelque chose qui laisse à désirer. C'est ça. Et maintenant, je suis au verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Prédestiné d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est quoi? Jésus n'avait pas de péché. La Bible nous dit en Hébreu, il a été tenté. Waouh, quand je me mets à comprendre notre monde, combien le péché bat son plein au plus haut niveau. Combien, à tous les niveaux, le péché, dans toutes les rues, dans tous les carrefours, là où nous passons, il suffit de regarder les bus, hein, pour voir toutes les publicités. Il suffit, ah oui, je suis désolé, mais je suis un être humain. Il suffit de regarder les pubs à la télé pour voir comment le péché. Il y a pour un oui, pour un non, mais on se demande, mais pourquoi on a besoin de mettre ça? Est-ce que ça a sa place là-dedans? D'accord? Alors, le texte nous dit, mais par prédestiné avant la fondation du monde. Vous savez que je me rappelle la première fois les responsables m'ont demandé de dire un mot ici. Je me rappelle que la première fois j'ai commencé par Éphésiens, là qui nous dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Regardez ce texte. Jésus-Christ, le conseil céleste. Qu'est-ce que j'entends par là? Père, Fils, Saint-Esprit étaient d'accord. Jésus a accepté d'être l'ambassadeur. Je m'explique. Vous savez que dans le monde, sans citer quelques pays, mais nous avons un pays qui généralement c'est lui le général du monde, le gendarme du monde quand il y a quelques problèmes, quelques conflits à travers le monde. Vous qui avez à peu près mon âge, vous voyez, je ne parle de personne, mais vous voyez à peu près. Quand il y a quelques soucis, souvent ce pays-là, ils envoient des diplomates, des messagers, des replacés pour aller traiter, discuter, dialoguer pour trouver une issue favorable. Ici présent, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu nous a tellement aimés, nous sommes tellement précieux pour Dieu, Dieu nous a tellement considérés, voilà le plan salvateur. Voilà le plan que Dieu a avant la fondation du monde. Vous allez peut-être me dire, mais par curiosité, mais vous allez me dire, mais Eben, mais c'est tout à fait normal si vous me posez cette question. Moi, j'accepterai, hein, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et ça, moi, j'aime bien ça. Mais vous pouvez me dire, mais frère Eben, mais Dieu savait que l'homme allait être péché. Moi, je vous répondrai oui. Je vous répondrai oui. Parce que si nous lisons ce texte, avant la fondation du monde, Dieu avait choisi, avait mis Jésus de côté pour être victime propitiatoire. Et si nous faisons un petit tour dans l'Ancien Testament pour voir tous les ustensiles, tout ce qu'il y avait, comment les choses étaient, vous allez voir, c'était une boîte, et il fallait mettre le sang dedans pour faire plein de choses. Bon, malheureusement, je dis ça comme ça, mais nous n'avons pas des dessins pour les voir. Nous étions pas propices, nous étions pas bons aux yeux de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui fait de nous ce que nous sommes. Quand la sœur a chanté le cantique, son sang efface. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. Son sang efface toute condamnation. C'est quelque chose de fondamental. Et lorsque Jésus a donné son sang, il l'a pas donné en partie. Et je vous invite à regarder le texte de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, la partie B du texte, qui va nous dire exactement ce que nous avons chanté. Le sang de Jésus-Christ efface, et j'aime bien ça. Il y a le tout, j'oublie en grammaire comment on appelle ça, mais il y a un nom, on donne à ça. Tout, c'est pas article, non, ça c'est pas article. Adverbe, merci, madame. Bref, j'aime bien ça. Le texte nous dit, le sang de Jésus-Christ efface tout péché. J'aimerais insister sur ce point-là. Aujourd'hui, nous entendons des choses, on nous dit, pas très longtemps, j'entends un frère, un monsieur qui parlait, qui disait, qui s'est dit pasteur, hein, s'il vous plaît. Et il a dit que voilà, quand quelqu'un meurt, on l'envoie au purgatoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte là, lui là? Non, le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Je vais insister sur ça. Je sais que quand on était jeune, ou bien encore aujourd'hui, il y a des actes qu'on peut commettre. Mais toute sa vie, même si on est à l'église, écoutez-moi bien, même si on est à l'église, on chante dans la chorale, on prêche, on fait plein de choses, mais on peut avoir des problèmes au fond du cœur. Oui, je suis d'accord. On peut regretter ce qu'on avait fait. Ah, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque le texte nous dit le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, mais qu'est-ce que tu fais avec ce reste du péché-là? Et en 1 Jean chapitre 3, verset 20, il va nous dire aussi, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Ça veut dire que si je commettais, et ou bien nous avons commis, je ne sais pas de quelle nature, mais le sang de Jésus-Christ nous purifie, sauf si tu n'acceptes pas Jésus réellement. Alors là, s'il y a sauf, si tu ne l'as pas confessé, ou bien tu ne le confesses pas réellement, tu traînes avec ce péché. Mais le sang de Jésus-Christ, je lisais cette semaine, j'ai acheté un livre qui parle de la Nouvelle Alliance, et quelque part, il dit que le sang de Jésus-Christ est plus fort qu'un détergent. J'ai acheté ce livre vendredi, je suis en train de lire, et quelque part, il me dit, le sang de Jésus-Christ est plus puissant, est plus fort qu'un, n'importe quel détergent qu'il soit. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour laver tout péché. Voilà, maintenant, je suis en... Ok, c'est bon. Je suis en Hébreux chapitre 9, je vais faire cette lecture. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 17, si je ne me trompe pas. Oui. Je pense que pour nous, l'Église, nous ne sommes pas dans une étude biblique, certainement. Mais je peux vous dire, c'est un moment, comme je disais juste avant de commencer, tous les dimanches, nous traitons des sujets différents. Mais je pense aussi, ça peut nous permettre, et c'est là, vous ne pouvez pas me poser une question pendant que je parle là, mais s'il y a un point sur lequel qui vous paraît pas clair, ben, c'est moi qui parle. Je vous demande pas de venir m'aborder sur des questions philosophiques. Je ne vous demande pas de venir m'aborder sur des questions, je ne sais trop de quelle nature, mais je pense que c'est, si vous avez quelques points, par exemple, qui vous trottent à l'esprit, vous ne comprenez pas, cette lecture peut vous aider. Je suis à Hébreux, chapitre 9, verset 11 à 17. Nous faisons la lecture, moi je fais la lecture, mais je vous demande de suivre, s'il vous plaît. Et je pense que c'est important pour nous de comprendre ces faits. Je pense que c'est important de comprendre ces faits. Pour les Juifs, il y avait la circoncision que Dieu avait signé cette alliance avec Abraham et ses descendants. Mais enfin, bon, chez nous, il y a un frère, quand je dis descendant, bon bref, il n'y a pas que des Haïtiens parmi nous. Je veux pas faire une blague. Je veux pas faire une blague, mais les gens qui sont intelligents comprennent à peu près. Cette alliance avait été contractée avec Abraham et ses descendants. Et encore aujourd'hui, nous le voyons dans les rues. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Avant de lire, la lecture que notre sœur a faite ce matin, en Matthieu 26, verset 27-28, le texte nous dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Vous savez que la Sainte Cène a été instituée juste avant la crucifixion. La veille, Jésus allait être crucifié le vendredi. C'est ce que nous dit, quand nous lisons la Bible, c'est ce que nous dit la Bible. Et la Sainte Cène a été instituée jeudi soir. Jésus, en prenant cette coupe, il a dit, et surtout la version semeur, quand nous lisons la version semeur, ah, j'aime bien ça. Et il nous dit, c'est pour la rémission. Tu es remis à zéro. Ta dette est remise à zéro. Tu n'as rien à payer. Ah, j'aime bien ça. Eh ben, oh, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Allez, le banquier, le propriétaire de la maison, il tape mon épaule, il me dit, tu peux t'en aller tranquillement. Ça va. Tu vois ça, la prochaine fois, on verra ça. Non, non, non. C'est que Jésus seul qui est comme ça. Le texte nous dit, Jésus a pris la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle. Il y avait une première alliance qui concernait les Juifs, Abraham, Moïse, mais avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a scellé cette alliance avec son sang. Cette alliance est ratifiée avec son sang. Et ça, et quand j'ai lu en Hébreux, chapitre 13, verset 20, la Bible nous dit que c'est une alliance éternelle. Jésus a acquis pour nous la rédemption. Et c'est des termes forts. La rédemption, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le rachat. Nous avons été vendus. Nous avons été esclaves. Vous savez qu'il nous arrive d'entendre quand quelqu'un est otage, très souvent, il y a des dessous, il y a des dépenses, il y a des échanges diplomatiques, nous ne savons pas, mais souvent, mais Jésus-Christ est notre ambassadeur par excellence. Jésus-Christ est notre messager par excellence qui a donné sa vie pour nous en instituant la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus-Christ qui est la matière. C'est le sang de Jésus-Christ qui scelle cette alliance. Je prends un exemple. Quand vous, je l'ai déjà dit ici, quand vous arrivez dans un bureau, surtout quand vous avez des affaires importantes, par exemple, vous achetez une maison, ça, c'est des affaires assez conséquentes, des affaires conséquentes. Vous achetez un terrain, c'est aussi des affaires sérieuses. On ne peut pas s'amuser avec ça. Là, le comment on appelle ça, greffier ou je ne sais trop comment on appelle ça, les gens qui gèrent. Eh oui, merci. Chez le notaire dans son service, c'est sérieux. C'est sérieux. Tu ne peux pas quitter son bureau sans qu'il soit, sans qu'il y ait sur ce dossier-là un coup de cachet. C'est sérieux. C'est sérieux. De même, je vous dis ça, même lorsque, par exemple, vous allez payer aux impôts, avant de quitter, avant de vous payer, mais assurez-vous, demandez d'avoir un coup de tampon dessus. Ça atteste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes encore dans ce monde, hein. Parce que si je paye 1000 euros, après tu me dis, oh, papy, là, moi, je ne vais pas être d'accord. D'accord? Donc, la nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. Je vous lis Hébreux, chapitre 11, verset... Merci. Alors, j'ai des élèves qui suivent. Parfait. Chapitre 9, verset 11 à 17. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je pense que vous allez trouver matière là-dedans qui peuvent vous édifier, vous servir. Je lis. Mais Christ est venu. Alors, quand nous avons cette conjonction dans la partie de cette phrase, il y a bien des choses qui sont dites avant. On est d'accord? Donc, j'ai essayé de vous éclairer là-dessus, même si je sais que vous le savez, mais puisque c'est moi qui parle, j'essaye de mettre les choses dans leur contexte, d'accord? La conjonction qui nous dit « mais Christ est venu comme souverain sacrificateur ». Je vous disais tout à l'heure, Christ est notre sacrificateur. Les sacrificateurs dans les temples, sa mission c'était d'offrir des sacrifices. Comme nous l'avons lu en Lévitique chapitre 4. Okay. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle en plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous suivez, s'il vous plaît? Je suis au verset 12. Très important. C'est Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et je vous rappelle une chose. D'après la Bible, le sacrificateur devait y entrer une fois par an. Et avant qu'il rentre, il fallait que lui, qu'il offre un sacrifice pour lui et pour le peuple. Parce qu'il y avait risque. Okay? Donc, dans le lieu très saint, je suis au verset 12, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec quoi, s'il vous plaît? Mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot rédemption, c'est un mot fort dans la Bible. C'est quelqu'un qui était esclave, qui était je ne sais trop, mais qui a un prix qui est payé pour cette personne. Moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Les jeunes ont chanté « Je sais qui je suis ». Parce que j'ai été racheté, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Une rédemption éternelle. Verset 13. Car les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, la pureté de la chair extérieure. Combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela, amen, Jésus-Christ, hein? Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Vous savez que j'ai pris tout à l'heure l'exemple, je vous dis que dans certains pays à travers le monde, quand il y a la guerre, on envoie souvent des ambassadeurs, on envoie toujours des médiateurs pour aller discuter, pour trouver une solution. Jésus-Christ est notre médiateur. Aujourd'hui, je le dis parce que nous avons tellement des discours, on nous dit, c'est le voisin qui est le médiateur, c'est le voisin qui est le pontife. C'est lui, par lui, nous devons passer pour avoir Dieu. C'est faux, parce que nous avons ça dans la Bible. Nous avons Jésus-Christ comme notre médiateur, d'accord? Et que le texte nous dit, il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et là, ça c'est un autre message très important, mais je lis le texte qui dit, car là, il y a un testament très important, cela. Très important. Car là, il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, mon père, je n'ai même pas besoin de parler de mon père. Si ma mère avait, je ne sais trop, 20 hectares de terre, elle avait la ville de Créteil pour elle, une fois la mort de ma maman est constatée, il y a le certificat judiciaire, eh bien, avec ça, je peux me présenter chez les notaires pour me donner la part qui me revient. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ est l'étiste. Jésus-Christ, c'est celui qui il est mort. Donc, après la mort de Jésus-Christ, son sang a scellé ce contrat, cette alliance. Voilà, nous avons cet héritage qui nous attend. Et je termine. Vous savez qu'il y a ce texte, Jean 1er, qui nous dit, versets 11-12, qui nous disent que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, la parole lui donne, ou bien les donne, le pouvoir de devenir enfant. Quel privilège on a quand on est enfant? Moi, j'en ai à la maison, je vois malgré leur âge, mais c'est moi qui achète les bouteilles d'eau. Hein? Oh, poussez-vous un peu. C'est moi qui dois ramener du pain à la maison, malgré leur âge. Ça veut dire que quand on est enfant, on a des privilèges. On a des droits. C'est normal. Méchant que vous êtes. Oui. Quand on est enfant, on a des privilèges. car nous avons Jésus-Christ, nous sommes Jésus, nous avons Dieu, un Père en commun avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est héritier du Père et nous sommes ses co-héritiers. C'est-à-dire, quelque part, si nous comprenons bien, nous avons la part égale. Nous avons la part égale. Voilà. Et cette alliance, elle est scellée. C'est pas... j'étais en train de lire bien des choses. Nous voyons, il y a des signes, il y a des alliances. Je prends juste une image, peut-être vous avez déjà vu. Vous voyez, par exemple, quand il y a un match de football qui se termine, souvent, on voit les deux équipes, ils se changent de maillot. Vous avez déjà vu ça? Ils le font comme ça, mais c'est symbolique. Il y a plein de choses là-dedans. Quelquefois, quand on signe une alliance, on peut même planter un arbre. Tout ça. Il y a plein de choses dans une alliance. Plein de choses. Mais ces alliances-là peuvent se casser, peuvent se briser. L'alliance éternelle a pour, le socle. L'alliance éternelle, elle est fondée sur le sang de Jésus-Christ. Et ça, dans le ciel, nous allons pouvoir chanter « Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau crucifié ». Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.